Alors, ce Radio Barque a pour invité aujourd'hui Jacques Bascou et nous venons d'évoquer le sujet de l'extension du port de la Nouvelle. Je rappelle en deux mots que c'est un projet qui est porté essentiellement par la région. Mais forcément, Jacques Bascou, en tant que président de l'agglomération du Grand Narbonne, a un regard, un intérêt et se sent très concerné par ce projet, Jacques Bascou.
Oui, tout à fait. On a fait allusion à l'enquête publique. Je crois que ce qui est intéressant, elle est en ligne, c'est que les auditeurs aillent sur l'enquête publique, puisqu'il y a effectivement une voie dissonante, c'est le pétrolier. Sachant que, notamment, il y a une réponse technique qui est faite par le pilote du port. Aujourd'hui, il y a une évolution du trafic, et si on ne prend pas en compte cette évolution du trafic, que ce soit sur les céréales ou sur le pétrole, aujourd'hui, donc, le port de la Nouvelle va végéter. Que ce soit Sète ou Fos, aujourd'hui, ils font des investissements. Donc, il faut bien sûr, avec Sète, c'est la région qui pilote ça. Il y a une complémentarité. Mais sans rentrer dans le détail, je crois vous allez sur l'enquête publique, il y a le pilote du port qui a montré l'évolution. Et notamment, aujourd'hui, le Sea Line, donc le fameux Sea Line, il reçoit des navires d'un type de, en gros, 35 000 tonnes aujourd'hui. Et donc, le trafic aujourd'hui sera au-dessus de 40 000, voire jusqu'à 55 000. Donc si on ne s'adapte pas, alors pourquoi? Parce que le Total, donc à plusieurs reprises, a dit que ça allait perturber leur activité, le fait du Sea Line. Il a été montré qu'on peut avoir une modification du Sea Line, donc qui entraînerait l'interruption du trafic, en gros, une quinzaine de jours. Donc c'est simplement un déplacement. Il faut savoir que Total a demandé la participation de la région pour la rénovation du Sea Line, dont derrière il y a des intérêts financiers. Et la différence, c'est que par exemple BP, à 7, a investi plusieurs dizaines de millions pour faire le Sea Line. Et aujourd'hui, Total profite effectivement de la modification du port pour donc demander une participation de la région, ce qui a été refusé puisque Total a la possibilité, voilà. Donc, mais au-delà de ça,
d'investir lui-même.
Mais au-delà de ça, si vous voulez, le problème du port de la Nouvelle, il a végété pendant des années. Au départ, c'était d'augmenter la profondeur. On a vu, alors si vous voulez, c'est le débat, un débat que j'entends. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des installations pour amener de l'activité, ou est-ce qu'il faut aller chercher de l'activité et faire les installations après?
C'est aujourd'hui, un peu un cercle vicieux, ça.
Aujourd'hui, on est en concurrence, et toutes les études, et vous avez d'ailleurs des armateurs qui se sont exprimés dans l'enquête publique, qui disent qu'effectivement, un port comme Sète, qui est port la Nouvelle, en complémentarité avec Sète, aujourd'hui a sa carte à jouer. Donc ça, si vous voulez, c'est la modification et l'extension du port qui se justifie par l'évolution du trafic, les céréaliers aussi. Je vous dis, je ne vais pas avancer des arguments techniques, mais vous avez un certain nombre de réponses à Total qui sont données. Aujourd'hui, il faut s'adapter à l'évolution. Les éoliennes, effectivement, c'est expérimental. C'est expérimental. Il a fallu effectivement se battre, bien sûr, puisque c'était un appel d'offres, pour que rapidement donc des entreprises puissent répondre. Et donc, c'est vrai que la fabrication ne se fait pas ici. Mais après l'expérimentation, qui sera un succès ou pas, puisque bon, si c'est un succès, ça va créer des emplois, l'expérimentation fera qu'à un moment, on travaille et sur la formation, parce que c'est vrai aussi que nous avons un déficit de formation. C'est souvent des cadres qui viennent de l'extérieur. Donc avec les chambres consulaires, avec la région, donc il y a un effort sur la formation justement des futurs employés et cadres finalement de construction. Mais c'est prévu. Il y a une plateforme justement qui est faite pour pouvoir assembler. Et donc la fabrication, on parle de Cadran, qui est une entreprise de Béziers, qui est une entreprise locale. Et aujourd'hui, donc, même si c'est la phase expérimentale, je pense qu'il faut relever ce défi. Et j'allais le dire, sur tous les avis qui sont donnés, je voulais le souligner, dans l'enquête publique, Total est le seul avis dissident. Et je pense qu'il y a d'autres intérêts que finalement l'intérêt du port de la Nouvelle.
Oui, peut-être. Alors, ça cacherait quelque chose, comme l'on dit en langage familier. Jacques Bascou, donc, en tant que président du Grand Narbonne. Alors, un petit point de politique politicienne, entre guillemets. Vous avez déclaré il y a quelques mois que vous ne vous représenteriez pas aux prochaines élections au municipal, donc à l'agglomération. Donc, vous abandonneriez votre siège. On a eu l'impression quelque temps que votre... départ, entre guillemets, annoncé, mettait un petit peu de l'huile dans les rouages avec la mairie de Narbonne, et puis parfois c'est pas totalement évident, puisqu'il y a encore, ça rue pas mal dans les brancards. Est-ce que vous avez eu ce sentiment à un moment ou pas?
Non, moi je travaille dans l'intérêt des Narbonnais, quoi. Et donc à des moments, il faut dépasser justement la politique politicienne. J'ai dit que je me représentais pas, mais c'est vrai que je m'intéresse à Narbonne parce que c'est ma ville. Je pense que pendant les 6 ans, donc j'ai été maire, on a fait un certain nombre de choses, bon malheureusement qui ont été interrompues. Aujourd'hui, donc je l'ai dit, ça peut surprendre. Hein, je suis un politique qui tient ma parole, donc je ne me représenterai pas. C'est une, mais je ne serai pas absent du débat, dans la mesure où, je l'ai dit à plusieurs reprises, nous avions impulsé un projet qui a été interrompu. Mais je rentre pas, si vous voulez, dans la politique, disons politicienne, la polémique, parce que bon, je regrette que le maire de Narbonne, ça fait 4 ans qu'il est en campagne, et plus ça va aller, plus ça sera le cas. Je crois qu'on peut travailler sur des dossiers, et on travaille sur ces dossiers, mais c'est dans l'intérêt des Narbonnais. Par exemple, on parle des pistes cyclables avec Force de Panon, avec le Grand Narbonne et la mairie de Narbonne. C'est vrai que le plan de déplacement, ça a été compliqué de travailler avec la mairie. Aujourd'hui, on aura des pistes cyclables. Je note au passage que pour le moment, c'est l'agglomération qui finance avec des fonds de la politique de la ville que nous avons obtenus. Nous allons passer une convention, c'est une très bonne chose, avec la mairie au mois de juin, où la mairie s'engage à faire quelques aménagements, mais on n'a pas le chiffrage de ces aménagements. Donc voilà, chaque fois j'essaye de passer au-dessus. Je crois qu'on a un certain nombre d'obstacles de la mairie de Narbonne, je n'en fais pas état dans des conférences de presse, mais c'est dommage. Bon, on a le parc des expositions aujourd'hui, on essaye de trouver une solution puisqu'il faudra un permis de construire. Bon, il y a du retard, je pense que c'est dommage, puisqu'on est sollicité de plus en plus de par notre situation géographique au cœur de l'Occitanie pour des colloques, des séminaires, et c'est dommage qu'on manque, si vous voulez, ces rendez-vous. Voilà, donc il faut aller vite, et moi je suis prêt toujours à travailler, d'ailleurs nos services travaillent ensemble, il y a un certain nombre de différents, il faut pas, hier soir il y avait un conseil municipal sur le permis de louer,
c'est non, on va y revenir parce que ça me semble symptomatique.
Mais si vous voulez, là aussi il faut pas de polémique, il faut être efficace, sachant que les problèmes de centre-ville, que ce soit les sécurités, les incivilités, ça se règle pas avec des slogans ou avec des coups de menton, il faut un travail de fond, et c'est ce qu'on avait essayé de faire. Bon, voilà, aujourd'hui je vois que la situation n'a pas vraiment évolué, mais c'est normal, je jette pas la pierre, mais là où je jette la pierre, c'est lorsqu'on se sert finalement de situations qui sont difficiles, qu'on doit résoudre collectivement, pour faire de la politique politicienne et toujours dire que c'est la faute de l'agglomération qui prend pas ses responsabilités, ou voilà. Donc, je crois que les Narbonnais sont lassés de ces polémiques. Et même si quelquefois on est un peu surpris de la façon dont fonctionne la mairie, je crois qu'il faut passer outre.
Alors justement, ça ne vous satisfait pas, le système actuel de fonctionnement de la mairie. Donc vous dites, je ne serai pas candidat, mais je ne serai pas absent du débat. Le contraire d'ailleurs, vous nous auriez dit que vous serez absent, on ne vous aurait pas cru, j'imagine, après une carrière politique quand même très longue. Ça veut dire que vous avez quand même une stratégie, vous prévoyez d'aider peut-être un ou des successeurs.
Non, j'ai pas de stratégie. Je pense que si les gens, comment dire, veulent faire appel à moi, non, pas pour être sur une liste, hein, mais pour que je dise un peu quelle est ma vision de la ville, puisqu'on essaye de travailler sur quelle sera notre ville dans 30 ans, comment on va y vivre. Si vous voulez, moi j'ai quelques idées. Bon, les barques, vous vous souvenez, quand on a fait les aménagements, j'ai eu des pétitions, même dans mon équipe, tout le monde n'était pas convaincu. Bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est à la satisfaction générale, cet aménagement. Bon, voilà, moi j'essaye d'avoir une vision, non pas sur le prochain mandat, mais à plus long terme. Bon, je souhaite que les candidats, quels qu'ils soient, n'aient pas uniquement une vision au prochain mandat, et dans ces conditions, si on fait appel à moi pour savoir un peu comment je vois les choses, bon, après les gens peuvent le retenir ou pas, hein. Je crois qu'il faut aussi, si je me retire, on est d'une génération assez, disons maintenant, ancienne, politique, et je pense qu'il faut faire confiance à des jeunes qui ont peut-être une vision différente des choses, et ça m'intéresserait justement d'échanger ces visions. Dans l'intérêt de Narbonne.
Alors à propos de conseil municipal, justement, quand même, vous y avez fait une petite allusion et j'y reviens, Jacques Bascou. Ce jeudi soir, donc, se tenait un conseil municipal à Narbonne. Et alors ce que je trouve assez croquignolesque, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais c'est que même lorsque vous êtes d'accord sur le fond, sur des projets, vous réussissez à vous écharper publiquement au conseil municipal. Exemple, le permis de louer.
Non, mais je crois, si vous voulez, il y a une stratégie.
C'est-à-dire une polémique.
Il y a des stratégies. Vous parliez de stratégie. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est facile d'aller dans le quartier de Bourg parce qu'il y a des problèmes d'insécurité, d'incivilité, qui sont des problèmes réels, et de dire finalement c'est la faute de l'agglomération parce que le permis de louer il ne l'a pas mis en place. Le problème du permis de louer, c'est que aujourd'hui il y a des discussions avec l'association des maires. Ça passe donc à l'Assemblée nationale et on la compétence. Alors je sais que nos concitoyens, les compétences, c'est pas leur truc parce que c'est déjà très complexe, mais il y a une réflexion pour justement les agglomérations qui ont la compétence habitat puissent déléguer à la mairie. Et c'est notamment Alain Perea, le député, qui a présenté un amendement qui a été retenu en commission et donc qui devrait être voté ou pas en séance plénière. Donc ça dépendra donc à ce moment-là qui a la compétence. Donc il faut travailler ce qu'on a fait avec la mairie au niveau des services pour pouvoir mettre ce permis de louer rapidement en place.
En deux mots, expliquons quand même qu'il s'agit de donner un certificat de décence à des appartements loués pour éviter.
Il faut une autorisation pour éviter que les marchands de sommeil louent des appartements. Donc, je vous dis, où on travaille sur le fond et en attendant qu'au niveau de l'Assemblée, il se prononce. Mais le maire, hier, en proposant une délibération, en gros, c'est écoutez, l'agglomération ne s'en occupe pas, moi je vais m'en occuper. C'est du volontarisme. Je me souviens, pendant la campagne, où on disait il n'y aura plus un SDF à Narbonne. Bon, les SDF, ils y sont aujourd'hui. Oui, alors, ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire que je porte un jugement, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des difficultés à appréhender un certain nombre de problèmes, et il faut le faire collectivement, avec le commissariat, avec la gendarmerie dans sa zone de compétence, avec la mairie, avec l'agglomération, avec les bailleurs sociaux, avec les promoteurs. Ça ne va pas avec finalement des polémiques qui sont entretenues régulièrement. Voilà, c'est ma vision des choses. Après, on avance.
Oui, une remarque, Michel.
Oui, c'est un décret qui date de janvier 2017. Alors moi, ce qui m'étonne, effectivement, c'est qu'il faille attendre aussi longtemps pour poser simplement la question de savoir quelle zone, en fait, on va circonscrire sur la ville de Narbonne pour mettre en place cette politique. Je veux dire, et ce cas d'affligeant dans ce genre de situation, c'est toujours la même remarque, en fait, qu'on a déjà faite ici à plusieurs reprises, c'est que l'on ne puisse pas se mettre autour d'une table, tout simplement, des didimoulis pour dire, sur ce problème, en fait, de l'habitat insalubre, en fait, de marchand de sommeil, il faut qu'on agisse vite, donc il faut tracer une zone.
C'est pas le problème du zonage, on est entièrement d'accord sur le zonage. Simplement, c'est de... Non, mais si, ça a été fait. Le zonage, on a les cartes. Le seul problème, si vous voulez, c'est de savoir qui a la compétence pour l'appliquer. C'est ça, le problème. Et le problème, si vous voulez, j'étais parlementaire. Le problème, vous le savez, il y a des lois qui sont votées. Bon, d'abord, les gens ne comprennent pas parce qu'il y a une communication qui est faite sur les lois, souvent d'ailleurs par les élus. Sauf qu'il faut qu'il y ait des navettes entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et ensuite, vous avez des décrets d'application qui prennent des mois, voire des années, voire certains décrets d'application qui ne sont jamais appliqués. Donc, si vous voulez, il y a un problème de compétence. Alors, vous me direz, par rapport aux problèmes les problèmes qui se posent dans les centres-villes, c'est vrai, et j'en suis tout à fait d'accord, que c'est pas normal, si vous voulez, qu'on ait le contrôle de l'égalité qui va dire, la délibération de la ville de Narbonne, elle n'est pas légale parce que vous n'avez pas la compétence. J'admets, il y a des réglementations en France qui font qu'on retarde les projets. J'admets qu'il y a un problème d'illégalité. Mais on essaye de travailler et on essaye de voir, c'est la raison pour laquelle moi j'avais saisi le député d'ici, pour qu'on aille vite, qu'il y ait un amendement. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, c'est pas un problème de bagarre entre les compétences, entre la mairie et donc l'agglomération. On est d'accord sur le fond. Le seul problème, c'est de savoir aujourd'hui, les mairies, c'est normal qu'on délègue cette compétence, puisque la loi permet à la compétence habitat, c'est l'agglomération. Moi, je suis pour déléguer aux mairies. Sauf que des mairies, parce que le problème, justement, des cœurs de ville et des marchands de sommeil se pose aussi dans d'autres communes de l'arrondissement, que ce soit
Les
communes n'ont pas forcément les moyens pour traiter ce problème. Et c'est plutôt l'agglomération qui a les moyens. En revanche, la ville de Narbonne, elle a les moyens de traiter ce problème, et je suis pour que ce soit la mairie de Narbonne qui traite ce problème. Voilà, donc c'est un peu la difficulté de pouvoir, sur un territoire dont on a la compétence en termes d'habitat, d'avoir donc une action efficace, non seulement au centre-ville. Donc ça se prépare. Il y a eu des réunions qui ont eu lieu avec la ville de Narbonne. Simplement, nous sommes en attente Et nous, dès qu'on a effectivement le feu vert, avec deux options, soit on peut déléguer à la ville, et donc c'est la ville qui mettra bien sûr en liaison avec nous, mais c'est la ville qui le mettra en place, ou l'amendement de Perea est donc est rejeté, et à ce moment-là, c'est l'agglomération qui mettra en place un service pour mettre en place le permis de louer.
C'est simple dans la mise en œuvre. Oui, mais on va pas entrer dans un débat trop technique.
Surtout pas un débat trop technique, ça l'est déjà, c'est comme ça.
Donc, je pourrais donner des exemples aussi, où une aglo, toujours dans le cadre de sa compétence, délègue, entre guillemets, à une commune membre de l'agglo, effectivement, le soin d'en mettre en œuvre, tout ou partie d'une politique définie par l'agglo. Donc, encore une fois, moi, il n'y a jamais de problème technique en termes de coopération qui n'est pas sa solution technique. Bon. Et donc, je trouve que là, effectivement, on est toujours devant le même obstacle, je dirais, psychologique, culturel, politique.
Mais dans la politique, il y a beaucoup de psychologie. Changeons de sujet quand même, parce qu'il faut en aborder d'autres. Parmi les compétences, qui n'étaient pas obligatoires, mais qui sont effectives, de l'agglomération du Grand Narbonne, il y a le théâtre, et dont on sait qu'il y a eu des difficultés, je ne sais pas psychologiques, mais en tout cas financières, puisqu'il a fermé effectivement pendant 6 mois, il a réouvert. Où est-ce qu'on en est, Jacques Bascou, sachant que c'est un label scène nationale qui oblige, qui contraint à une gestion assez particulière, n'empêche que la grande partie du financement provient du Grand Narbonne, de l'agglomération, à la fois pour le fonctionnement et puis pour la maintenance.
Le théâtre a fermé, donc c'est un théâtre, vous l'avez dit, scène nationale, donc un label qui est délivré par l'État. Il y a un cahier des charges qui correspond à ce label, et puis donc dans la solution qui a été mise en place donc récemment, c'est-à-dire la fermeture de 6 mois pour permettre le redressement financier du théâtre, ce qui est une réalité aujourd'hui, c'est l'État qui a pris en charge les salaires des fonctionnaires, la directe. Donc vous conviendrez que l'État a son mot à dire. Mais il y a également aussi les financeurs. Vous avez parlé de l'agglomération, mais il y a la région, il y a le département. Et donc, c'est quand même nous qui finançons le fonctionnement avec l'État, mais majoritairement, l'agglomération donne le double de l'État. Donc, il faut qu'on arrive à trouver un compromis sur à la fois l'indépendance de la directrice sur la programmation, mais également un contrôle des collectivités sur le fonctionnement. Alors, le problème qui peut se poser, c'est que c'est un label scène nationale et c'est un établissement que tous les Narbonnais ont payé les contribuables,
incontestable.
Donc, qui devraient être utilisés donc peut-être en dehors des spectacles. Donc ça, c'est à organiser. Aujourd'hui, on a un contrat d'objectifs et de moyens qui, a priori, devrait être signé le 30 mai et qui devrait permettre justement d'avoir une cohabitation entre les deux activités. Mais on revient, si vous voulez, en plus on parlait tout à l'heure de littérature d'un auteur local. La difficulté, c'est que il faut à la fois qu'on s'appuie sur le terrain, c'est-à-dire notamment sur les scolaires, ce qui est fait, mais aussi sur ceux qui, par exemple, font du théâtre. Il y a plusieurs troupes ici qui ont finalement revitalisé le théâtre, que ce soit le Théâtre Bleu, l'Entresort, le Citroën Givré, qui sont pas forcément dans les canons de la DRAC, puisque c'est une scène nationale, mais je crois que c'est notre devoir, dans la mesure où les contribuables narbonnais ont payé, de pouvoir avoir aussi des spectacles qui ne sont pas dans le cadre de la scène nationale. Alors c'est vrai que c'est compliqué à mettre en place. En tout cas, on y travaille. Aujourd'hui, il faut trouver des solutions. Et pour ça, ça doit passer par une entente de tous les partenaires. Il n'y a pas forcément toujours... il faut mettre de l'huile dans les rouages. Mais je souhaite que, finalement, tout le monde s'entende. Ça sera donc le 30 mai que, normalement, la convention va être signée. Et ça devrait nous permettre de relancer le théâtre et notamment la fréquentation qui, sur certains spectacles, a quand même augmenté. C'est vrai qu'il y a une programmation avec visant, un public plus jeune, mais il y avait un public traditionnel qui peut-être quelquefois a pu être dérouté.
Oui, c'est-à-dire on a le sentiment que c'est une programmation un petit peu trop élitiste et qui ne fait pas assez appel à des spectacles plus populaires, sans que le mot populaire n'ait rien de péjoratif.
Voilà, mais c'est le débat, comme l'a dit Michel Santo. Il peut y avoir des auteurs qui sont vraiment intéressants, qui sont des acteurs locaux. On peut pas forcément généraliser, il faut arriver à un compromis. Et je pense aussi que dans la fréquentation du théâtre, il y a ceux qui aiment un certain style de spectacle, mais il y a aussi des gens qui peuvent être qui sont jamais allés au théâtre, mais qui peuvent être attirés par un spectacle local et qui peuvent à cette occasion découvrir un théâtre et une programmation.
Voilà, ben merci Jacques Bascou. Espérons qu'on aura un nouveau théâtre, en tout cas un nouveau fonctionnement et surtout un meilleur fonctionnement par rapport à ce qui s'est passé récemment. Notre prochain invité sera le maire de Sigean, Michel Jamme, avec lequel on va parler essentiellement des GEMAPI, encore une nouvelle compétence de l'agglo qui est déléguée à ce monsieur
et
Michel Jamme.
Et vous verrez que c'est un spécialiste, c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup dans ce sujet qui est très délicat, puisque c'est une transition. On parlait tout à l'heure aussi des textes, des lois. C'est très complexe, hein, encore une fois. Et je conçois que les gens qui sont impactés, soit par les inondations ou les submersions marines, attendent des réponses rapides. Mais là aussi, il faut faire avec l'administration française et avec aussi...
Avec ses lenteurs et ses hésitations. Merci encore Jacques Bascou. Parmi les prochains invités, citons également François Lieta, qui est perpignanais, qui est le président des Républicains pour les Pyrénées-Orientales. Un petit peu plus tard, Catherine Bossis. Un peu plus tard également, Monsieur Saint-Cluc, que nous retrouverons également dans ce courant du mois de juin. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.